Absolutely Incredible, avec un A et un I en capital comme l'acronyme d'intelligence artificielle. Greg Joswiak, le vice-président du marketing chez Apple, ne laisse aucun doute sur ce qui sera l'événement de la WWDC 2024, désormais officiel, avec une keynote le 10 juin à l'Apple Park. Dans un peu plus de 2 mois, on saura comment l'IA va redéfinir les applications et les systèmes d'exploitation, à commencer par iOS 18. Double actualité judiciaire pour Cupertino, avec aux États-Unis le ministère américain de la justice qui poursuit Apple pour monopole illégal sur le marché des smartphones haut de gamme. Et en Europe, Apple visé par une enquête au même titre que Google et Meta dans le cadre du DMA, 2 semaines à peine après son entrée en vigueur. Et puis, je vous emmène ici à Las Vegas pour l'Adobe Summit 2024, le rendez-vous annuel de l'éditeur de Photoshop dédié au marketing digital. On y a beaucoup parlé cette semaine de Firefly, l'IA générative d'images d'Adobe, que les marques vont pouvoir entraîner avec leurs propres images pour des visuels qui leur ressemblent et des contenus hyper personnalisés. Alors, est-ce le début de la fin du marketing de masse qui inonde nos boîtes mail? On va en débattre et ça promet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'iWeek, la semaine Apple, épisode 179. Nous sommes le jeudi 28 mars, il est 10h15 du matin ici à Las Vegas, il est 18h15. Pour vous en France, n'est-ce pas les amis? Salut.
Oui, absolument.
Oui. Tout comment fait. Ça va Élie, Fabrice, Gilles?
Eh bien fort bien. Fort bien. Ouais. Le printemps était là, mais il est reparti.
Ah. Ah non, il est arrivé chez moi. Tout va bien. Merci beaucoup, Élie.
Non, c'est moi qui ai récupéré le soleil ici. Vous le voyez derrière moi. Et salut, Gilles.
Et salut, Benjamin. Je suis ravi de vous retrouver. On est presque au complet.
Et oui. On fait une bise aux absents, à François Le Truédy qui a Baptiste Dajon, et on attaque direct avec donc le premier gros sujet de la semaine. C'est évidemment la confirmation par Apple de la WWDC 2024 sur un format finalement identique à celui de l'année dernière, hein, puisqu'on va avoir une première journée avec une keynote évidemment. Ce sera le 10 juin en présentiel à l'Apple Park pour ceux qui auront la chance d'y être, et puis jusqu'au 14 ce sera du online. Bon, moi je suis pas surpris que cette annonce soit tombée là il y a quelques heures, parce qu'on est vraiment dans le timing habituel de la confirmation de la conférence développeur Apple, hein, Fabrice.
Oui, bien sûr, parce qu'il faut laisser le temps à la loterie pour que les gens puissent s'inscrire pour voir s'ils peuvent y aller, s'ils vont avoir la chance d'y aller. Il faut laisser le temps aux gens de prendre leur billet d'avion et organiser tout ça. Eux savent la date depuis longtemps, bien sûr. En même temps, c'est pas une grande surprise. Les dates sont donc conformes à ce qui se passe d'habitude.
Voilà, c'était le 5 juin la keynote l'année dernière. Là, ce sera le 10. Alors, tu évoquais la loterie. On va rappeler ce que c'est quand même. C'est ceux qui seront, on va dire, dans le public le 10 juin à l'Apple Park seront pour l'essentiel des développeurs qui donc doivent s'inscrire sur une sorte de liste d'attente, doivent faire acte de candidature pour peut-être être tirés au sort. Je crois qu'il y avait eu, je ne vais pas dire de bêtises, 2 millions ou 22 millions l'année dernière de postulants. Enfin, c'était un nombre complètement fou. Donc là, le créneau est ouvert là jusqu'au 3 avril 23h59 pour vous inscrire si vous le souhaitez. Alors, il y a une condition, c'est qu'il faut avoir un compte développeur Apple. Bon, ça c'est pas très compliqué, hein. Ça coûte $99 par an, n'est-ce pas?
Ben
c'est
oui.
Comme ça que j'avais pu y aller l'année dernière, parce que j'avais été tiré au sort l'année dernière. Et c'est comme ça que j'avais pu aller à l'Apple Park pour l'annonce du Vision Pro.
Donc, c'est pour ça que je me suis pas inscrit, je voulais pas prendre ta place.
Ah, c'est gentil, Fabrice. Mais du coup, j'irai essayer en me disant...
Je me suis inscrit, moi aussi.
Ah, c'est bien, Élie.
Mais
si t'es tiré au sort, t'y vas?
Ah bah oui, oui. Oui,
ah oui. Oui.
Ben bon. Moi, si tu veux, j'ai reçu un mail d'Apple sur mon mail développeur en disant si vous voulez vous inscrire. Alors j'ai dit, bah oui, j'ai cliqué.
Bah oui, c'est un clic.
Me propose.
Hein. C'est un clic pour
postuler. Après, il faut
postuler.
Tirer au sort. Ça, c'est...
Voilà. Et après, il faut trouver le budget pour y aller, puisque Apple n'invite pas les développeurs. Hein. Ils ont juste le droit de se payer un billet d'avion, des nuits d'hôtel, éventuellement une location de voiture pour aller passer une journée seulement à l'Apple Park. Mais ça peut être aussi le voyage d'une vie hein, pour certains. Et c'est vrai que c'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier l'année dernière. Bon, l'année dernière, c'était déjà un grand cru grâce aux Vision Pro. Cette année, on a une indication assez évidente de ce qui sera le sujet numéro 1. Et Greg Joswiak en a pas fait mystère en annonçant sur son compte Twitter cette WWDC, Fabrice.
Avec le gros clin d'œil, genre, ouais. C'est à peine souligné. Hein. Il a écrit « It's gonna be absolutely incredible », donc ça veut dire « absolument incroyable », avec un grand A, un grand I. Donc voilà, on sait de quoi on va parler.
AI, en français.
Ou IA en français, donc intelligence artificielle à tous les étages. Je pense que ça va, c'est assez évident. Ouais.
Ouais. Ellie, t'es pas surpris ? Ou t'es surpris qu'Apple le dise clairement, quelque part
Je pense qu'ils en avaient marre que tout le monde leur dise qu'il fallait parler d'IA. Et donc là, ils se cachent plus. Maintenant, il y a quand même certains mystères. Est-ce qu'ils vont utiliser un ou plusieurs moteurs d'IA génératifs? Parce qu'ils discutent avec plusieurs sociétés. Donc on sait qu'en Chine, ça risque d'être un modèle différent de celui du reste du monde,
ouais.
Pour des raisons évidentes. Mais il n'est pas exclu qu'ils en utilisent plus d'un, histoire de ne pas se faire encore accuser faire un peu de monopole. Et en tout cas, ça ne sera pas, d'après ce que disent plusieurs rumeurs concordantes, le moteur d'Apple dont on avait parlé. Ils sont en train de développer leur propre moteur, mais il semblerait que pas cette année.
Ouais, Gilles, justement, à ton avis, est-ce que c'est un choix par défaut d'Apple, donc qui ne serait pas prêt avec son propre moteur et qui démarrerait avec le ou les moteurs de partenaires, ou est-ce que c'est quelque part un peu un constat d'échec temporaire sur le fait qu'ils seraient pas prêts avec leur propre techno?
Ouais, un petit peu, s'ils ont prévu de démarrer avec quelque chose de maison et qu'ils sont obligés de s'adresser à des partenaires, c'est un petit peu un constat d'échec. Moi, ça m'a fait penser au Macintosh, le premier du nom, qui devait démarrer avec le lecteur d'Apple, le lecteur de disquette d'Apple, qui au final n'était pas prêt. Et, ils ont démarré avec le lecteur de Sony, qui était une franche réussite, et le format a été adopté par tout le monde. Pour compléter ce que disait Ellie, il y a des rumeurs selon lesquelles Apple s'intéresserait à Anthropic, qui est une boîte française qui est concurrente de OpenAI.
Mais dans laquelle Google vient de remettre de l'argent. Hein.
Oui, mais tout Amazon. Le monde... Amazon, oui.
Ah oui,
on en reparlera tout à l'heure, ça montre à quel point les pseudo-autorités de régulation, qui font absolument pas autorité, se plantent.
On va en reparler.
On va en reparler, mais il y a eu un clin d'œil aussi appuyé de Tim Cook, qui avait dit qu'ils attendent avec impatience ce que les Français pourraient proposer au point de vue logiciel.
Ouais, mais bon, pour l'instant, on dit pas que Apple parle avec Mistral. Hein. C'est Google, Microsoft et Baidu a priori les contacts en cours.
Là, Fabrice, c'est Anthropic. Ouais. Là, c'est Anthropic, ouais. Quelque chose de différent et qui est vraiment de bonne qualité aussi.
Enfin, Anthropic, ils sont déjà entre les mains plus ou moins d'Amazon. Hein.
Oui, Amazon maintenant a une participation de plus de 4 milliards de dollars dedans. C'est pas une boîte française, Anthropic, c'est une boîte américaine hein, qui a peut-être, là, j'ai pas l'info, mais des Français dedans, mais c'est pas une boîte française. Anthropic est connu pour un LLM, un chatbot qui s'appelle Claude, dans la version 3 et sorti il y a assez peu de temps, qui est excellent. C'est-à-dire que en termes de rédaction et de traitement de texte, pas dans le sens de Word, ça me fait bizarre de dire traitement de texte, mais traitement du texte. ils ont vraiment fait un vrai bon. De genre de bon qu'on va voir, d'amélioration qu'on va voir de toute façon à chaque génération, et GPT-5 qui va pas tarder à sortir également. Donc là, c'est tout ça est encore très très mouvant. Je pense qu'on peut dire aussi que probablement que Apple est un peu en retard. J'aurais envie d'ajouter que probablement aussi il y a des négociations financières. C'est-à-dire qu'on peut aussi mettre ça en rapport avec ce que paye Google pour être le moteur de recherche par défaut sur les iPhones, hein, qui est entre 15 et 20 milliards de dollars par an, pour avoir le droit à cette place de choix. Ce qu'on entend, c'est que visiblement, outre les besoins et les restrictions de chaque pays, Apple fait jouer un peu la concurrence, donc ils sont en train de parler avec Google pour Gemini, avec Anthropic pour Claude, avec OpenAI pour ChatGPT, avec Baidu, avec tous les autres, pour s'adapter, et puis éventuellement pour savoir qui c'est qui va payer le plus cher pour être aux premières loges dans l'iPhone, par exemple.
Mais justement, est-ce que c'est pas contraire à la philosophie d'Apple, notamment sur ces sujets qui sont quand même hyper sensibles? Est-ce qu'Apple aurait pas envie de maîtriser complètement le moteur, enfin la base de connaissances? Parce que là, s'il signe avec l'un de ses partenaires, on voit tellement d'erreurs passer sur ChatGPT ou sur Bard. Il y a encore eu les affaires il y a pas si longtemps des fameuses photos générées qui n'avaient aucune réalité historique. Est-ce que c'est pas problématique? Est-ce qu'Apple peut se contenter d'un partenaire qui lui permet juste d'être là, même avec des défauts?
Deux petites choses. Il y a le côté. Rappelons que l'iPhone est arrivé, il n'y avait pas Apple Maps et c'était Google Maps qui était livré avec. Et ensuite, Apple a fait son truc parce que il préférait justement prendre la main. Et ensuite, visiblement, le moteur de LLM d'Apple est pas prêt. Et puis, on peut éventuellement penser que justement, puisque les chatbots produisent des erreurs de temps en temps, c'est peut-être un bon moyen pour Apple de dire c'est pas nous, c'est les autres qui font les erreurs. Parce que justement, parmi les retards possibles, ou en tout cas les raisons, c'est que le chatbot d'Apple fait les mêmes erreurs, et donc il vaut mieux que ce soit les autres qui les fassent.
Ouais. Ellie, Gilles, c'est quoi votre approche là, sur le sujet des partenariats qui forcément enlèvent à Apple une partie du contrôle de la matière première, quoi?
Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un problème pour Apple de ne pas avoir son propre moteur? Ça le serait si son moteur était prêt. Mais étant donné qu'ils arrivent avec presque 2 ans de retard au niveau des produits Apple et du support natif, ils ne peuvent pas se permettre d'arriver avec quelque chose qui serait moins bon que ce qui existe à côté, parce que alors, tout le monde va leur dire, non mais attendez, non seulement vous avez raté le train, mais en plus votre truc il est nul. Donc ça ils ne peuvent pas. Donc ils utiliseront le leur lorsqu'il sera prêt. Et en même temps, ça permet de ne pas dire, on a encore un abus de position dominante puisqu'on impose notre moteur. Donc on commence par parler de ceux des autres et après ils peuvent amener le leur de notre côté. Ils vont quand même avoir de l'IA Apple dans iOS 18 et les autres
Bien
OS.
Sûr.
Parce qu'ils vont mettre une touche d'IA quand même dans les apps. Ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc je pense que Keynote, enfin toute la suite bureautique Apple aura une petite touche d'IA et peut-être d'autres applis comme Photo, on en avait parlé, comme Musique pour les playlists, les sélections, etc. Donc je pense que ces nouveaux OS qu'on va voir cet été vont être tous quelque part un tout petit peu picousé à l'IA, en plus évidemment de l'assistant qui va probablement remplacer Siri, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose.
Ouais. Gilles, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'IA dans les apps avec iOS 18 notamment.
Oui, il y en aura, vous l'avez dit, il y en aura un peu partout. de façon native. Mais le problème de l'IA dans le moteur de recherche qui est dans les différents navigateurs, puisque Safari n'est plus le seul. Le problème qu'il soit estampillé Apple ou pas Apple, c'est pas tellement le problème d'Apple, c'est le problème de ses utilisateurs, dans la mesure où ces moteurs conversationnels et ces moteurs de recherche sont de gigantesques aspirateurs à données personnelles, à centres d'intérêt, etc., etc. Il faut, n'en déplaise à Miss Madame Vestager et puis j'allais dire l'autre allumé, enfin le oh. Monsieur qui a préparé le j'ai perdu son nom après avoir non au, oui. Le département de la justice américain, pas le ministre, mais le gars qui a préparé la copie, c'est une garantie pour les utilisateurs d'une confidentialité la plus complète possible sur ce qu'on demande, les centres d'intérêt, etc. C'est à ce niveau-là que ça coince.
Ouais, tu fais une pixel sur le lien entre l'intégration de l'IA dans les logiciels et les systèmes et les données personnelles.
C'est le charbon du 19e siècle, c'est le pétrole et l'électricité du 20e pour cette technologie qui va être à la base du prochain bond technologique à venir. Il faut vraiment avoir ce truc-là à l'esprit.
On va en reparler dans la troisième partie de l'épisode, mais en tout cas en Europe, il y a un sérieux serrage de vis autour de justement du respect des données personnelles, donc je suis pas sûr que ça se passe aussi facilement que ça pour ces géants de la tech. On dit un mot quand même de ce qui pourrait arriver, être annoncé lors de cette WWDC. Évidemment côté logiciel, iOS 18, Mark Gurman dit que ça va être la mise à jour la plus majeure depuis le lancement de l'iPhone. C'est votre est-ce oui. que c'est votre intuition aussi? Oui. Ça te fait rire,
Fabrice? Tout le monde est d'accord là.
Bah, parce que
on dit ça à chaque fois.
Alors c'est un peu ça. J'ai un peu le sentiment qu'on dit ça, c'est pas la première fois qu'on le dit malgré tout, mais que il semblerait que là il va y avoir un changement qui va se voir. C'est-à-dire qu'enfin il y aurait des changements véritables sur l'écran d'accueil. En termes de placement d'icônes, etc., et que peut-être on pourrait enfin faire sur un iPhone ce qu'on peut faire sur un Android depuis 10-12 ans, c'est-à-dire placer une icône exactement où on veut et pas seulement en fonction du placement des autres. Et puis peut-être d'autres choses, du coup, en termes de personnalisation de l'écran d'accueil, en allant un peu plus loin qu'avec les widgets actuels. Donc ça va se voir. Est-ce que c'est un changement profond du système? Peut-être pas, mais visuellement, oui.
Ouais. Ellie, pardon, je t'ai un peu coupé parce que l'amour de Fabrice m'a incité à lui passer la main tout de suite.
Non, j'espère que ça sera une grosse mise à jour. En tout cas, plusieurs indices le donnent. Et c'est vrai que tout le monde a parlé de ces icônes qu'on peut déplacer. Mais j'espère qu'à iOS 18, ce ne sera pas qu'une mise à jour permettant de placer les icônes où on veut. Parce que franchement, on serait déçu. Hein.
Mais justement, j'ai l'impression qu'il y a, oui, quand Greg Joswiak. Met l'accent sur l'IA, ça ira sans doute bien au-delà. Gilles, l'intégration de l'IA par Apple, est-ce que d'une certaine manière, elle va ressembler à ce que fait Microsoft avec OpenAI, à ton avis? C'est-à-dire dans l'OS, dans les apps.
Il faut qu'il y ait de ça, parce que Apple, j'allais dire, je jette un regard torve vers le monde de l'entreprise, mais c'est pas très gentil. Ils en ont besoin, ils sont là avec l'iPhone depuis très très longtemps, pratiquement depuis le lancement, mais c'est un marché extrêmement important pour eux qu'ils labourent très très sérieusement maintenant depuis plusieurs années. Donc il faut absolument qu'il y ait des outils d'intelligence artificielle qui soient intégrés et qui soit pas concurrents, mais qui rivalisent dans une certaine mesure avec ceux de Microsoft et avec un petit truc en plus. Mais ça ne peut pas suffire. Il faut qu'ils aient trouvé quelque chose en plus, la petite surprise qui va nous faire dire « Ah oui, effectivement !» Parce que sinon, ça va être une grosse déception. Mais la petite étincelle qui pétille dans l'œil de Joz fait que, vraisemblablement, ils ont trouvé quelque chose.
Côté matériel, qu'est-ce que vous voyez annoncé à la dub-dub, comme on dit, donc le 10 juin ? Côté processeur, on parle du M3 Ultra, avec oui. potentiellement une conception qui n'aurait pas grand-chose à voir avec, avec son prédécesseur.
Exactement, et sous réserve que ça nous soit confirmé par notre gourou en processeur dans une prochaine émission, les rumeurs, enfin ouais. les gens qui... Oui, on absolument. Embrasse. Qu'on embrasse, absolument. Donc les gens qui auraient vu le processeur Ultra, donc pas nous, mais il y en a, disent qu'il manque Ultra Fusion, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas la possibilité de mettre deux Macs ensemble pour faire un Ultra. Et donc, du coup, ça serait un nouveau processeur. Puisque jusqu'à maintenant et depuis le M1, c'était deux processeurs Macs collés ensemble, ça ouais. fait un Ultra. Donc là, s'il n'y a pas Ultra Fusion, il ne peut pas y avoir de processeur, enfin, de biprocesseur combiné. Donc, comme pour le M3, pour la première fois, Apple a fait plusieurs modèles de processeurs, puisque rappelez-vous que le M3 Pro n'est pas une moitié de processeur, on en avait parlé au début, que le M3 de base n'est pas exactement le même, et c'est pas les mêmes vitesses, etc. Tout ça, on en avait parlé en détail. Ça veut dire que sur la génération M3, Apple s'est déjà offert au moins deux ou trois versions différentes du processeur, puisqu'il y a aussi celle qui est dans l'iPhone, qui est un peu différente. Donc, pourquoi pas une quatrième ou une cinquième, hein. À force, on s'y perd, mais il y en a plus d'une, en tout cas.
Fabrice, tu vois le M3 Ultra annoncé le 10 juin ?
Je vois surtout la fin de la gamme, enfin la gamme M3 complétée, parce qu'on n'a pas encore vu le Mac Studio, par exemple.
Ben oui.
Et
oui.
puis, est-ce qu'il y aurait donc un nouveau Mac Pro ? On pense toujours au Mac Pro, à la WWDC, puisque c'est la machine des développeurs un peu par excellence. Même si la dernière a un peu déçu finalement pour tout un tas de bonnes raisons. J'invite nos chers auditeurs à aller écouter nos épisodes précédents. Et puis pour terminer, pour encore une autre petite anecdote rigolote, on peut peut-être se dire que ce sera ce fameux M3 Ultra qui n'est pas fait comme d'habitude, c'est peut-être celui de la voiture. Puisqu'ils avaient mis au point un M2 quad ultra top ouais. moumoute, que c'est peut-être celui-là, et que justement, c'est une des technologies qui avait été mise au point pour mettre ensemble, au-delà de la blague, c'était une techno pour mettre ensemble plusieurs M2 ultra. Donc en plus, enfin bref, un truc qui aurait bien sa place dans un Mac Pro, justement.
Ouais, ouais, bien sûr. Gilles, évidemment, on va reparler du Vision Pro à la dub-dub le 10 juin. On n'aura pas de deuxième version du casque.
Non.
Non.
Ça serait étonnant. Alors, je ne vais pas faire le vieux radoteur avec son Macintosh de 1984, mais il nous avait fait le coup à peu près à la même époque, en 84. Ils avaient sorti du chapeau le Macintosh 512 qui avait complété la première version du Macintosh qui faisait 128. Alors, il ne faut jamais dire jamais avec ces gens-là. Maintenant, il est possible, comme disait Fabrice, qu'ils recyclent le processeur de la voiture, mais ça serait vraiment quelque chose sous stéroïde, comme disent les Américains, parce que on est au-delà des deux... Des deux puces mises ensemble, ce qui n'est pas exclu non plus. On arrive au moment où TSMC doit avoir mis au point et la fabrication, les process de fabrication en masse de sa deuxième génération depuis SEM3, depuis sa à 3 nanomètres. Donc il est possible que le nouveau design du système on chip corresponde à ça aussi. On va voir, hein, il y a de moins à attendre maintenant.
Ouais. Élie, est-ce que tu vois un upgrade du Vision Pro sans changement de design, mais éventuellement avec des petites modifications internes, éventuellement le passage au M3 par exemple, ou des changements subtils
Je ne crois pas, parce que du coup le lancement est trop proche, et puis surtout il n'est pas encore international. C'est-à-dire que Apple pourrait pas sortir un nouveau modèle, sinon tous ceux qui l'ont acheté aujourd'hui et tous ceux qui restent en stock, ça serait un gros problème. On a quelques rumeurs sur une évolution. D'abord, on sait qu'à la WWDC, il y aura Vision OS 2.0 normalement. Et déjà ça donnera aux développeurs de quoi travailler. Ensuite, on a vu qu'Apple a ressorti un vieux brevet dans lequel qu'ils avaient déposé à l'époque des Apple Glass, hein, et qui peut-être un jour sortira dans les Apple Glass, donc vers 2050, au rythme où on va sur ce produit. Mais en fait, il semblerait que bientôt, ou en tout cas la prochaine génération probablement du Vision Pro, évitera de devoir faire des optiques Zeiss, par exemple, adaptées à chaque vue, puisqu'il serait capable de s'adapter à la vue des utilisateurs par des algorithmes, par des capteurs, etc., pas à 100%, mais ça éviterait de passer par ces étapes, et surtout ça permettrait peut-être d'avoir plus d'un utilisateur si le système était capable de reconnaître plus d'un utilisateur et d'adapter en temps réel l'optique à ça. Ça serait fabuleux, et rien que ça serait vraiment un gros progrès, mais ça se fait pas en 15 jours malheureusement, ni en 3 mois, donc il faudra attendre déjà que le Vision Pro sorte dans le reste du monde, hein, ça va leur prendre quelques mois, parce qu'ils vont le faire par petits groupes de pays. Ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'il va y avoir 9 pays, si tout se passe bien.
Mais on ne sait pas.
On ne sait pas trop, mais...
Tim Cook a confirmé l'arrivée en Chine dans le courant de l'année. C'est la seule chose qu'on sait de manière certaine, je crois.
Je pense que c'est ça qui confirme l'arrivée de la version 2.0 de Vision OS. D'ailleurs, ça viendra probablement avec beaucoup de localisation...
C'est ça.
Nouvelle,
Mais je pense qu'ils sont obligés, je pense, de le sortir dans plus d'un pays. Parce que la Chine, ça veut dire que les Européens vont se fâcher. S'ils le sortent en Europe, comme au départ, on avait parlé de l'Angleterre uniquement, qui n'est pas vraiment en Europe, hein, maintenant, donc y a le reste de l'Europe qui va se fâcher. Et du coup, s'ils le sortent en Europe, il faut que ça sorte en France, en Allemagne, toujours pareil. Il faut ménager la chèvre et le chou. Donc... tout ça, tu le rajoutes et ça fait quelques pays. Hein, donc, s'ils veulent Gilles, contenter tout le monde maintenant. Ouais.
Gilles, juste, je reviens deux secondes sur cette potentielle adaptation dynamique du Vision Pro à la vue de chaque utilisateur. C'est un sujet dont tu nous as déjà parlé, hein, quand on avait vu passer des brevets notamment.
Non, c'était au niveau des fabricants de la recherche. Où les nanocristaux dont sont faits les verres pourraient changer un petit peu à la demande de façon logicielle.
C'est ça.
Et donc, modifier un peu la manière dont la lumière, l'image se forme en avant ou en arrière de la rétine, et donc faire toute seule la mise au point, un petit peu comme si les verres étaient eux-mêmes autofocus. En ce qui concerne la localisation, ils ont besoin aussi d'avoir du Vision Pro présent physiquement sur les marchés chinois, bien entendu, mais également européens, pour avoir des développeurs qui fabriquent, qui conçoivent des applications. J'avais parlé la semaine dernière de cette étude où les deux tiers des entreprises françaises du e-commerce, de la santé, et puis étonnamment pas de l'éducation ou de la formation, avaient prévu ou avaient déjà commencé, un tiers a commencé et un tiers a prévu de consacrer des sommes rondelettes au développement d'applications et la présence de leur boîte sur, sur le créneau du Vision Pro, un peu comme Decathlon le fait très très en pointe et très très en avance au niveau mondial.
Bon voilà, on sera fixé le 10 juin. Oui, Élie, tu lèves la main et tu es concerné par le tirage au sort, je sais. Nous, on sera fixé le 4 avril. Hein, on aura un mail nous disant si on est parmi les heureux élus ou pas. Tu voulais ajouter une dernière chose ?
Oui, c'était une petite anecdote pour faire la transition, puisque pendant qu'on enregistre l'émission, j'ai eu une alerte Twitter avec les tags Marc Gurman et Vision Pro. Donc, je suis allé voir en me disant, ça y est, il nous écoute, il va nous sortir un truc. Mais en fait, il répondait à une question. Donc, son tweet, il dit juste « yes ». Et donc, je suis allé regarder dans le fil. Et en fait, quelqu'un lui a demandé, il demandait en général, est-ce que quelqu'un s'est endormi avec un Vision Pro sur la tête, et Marc Gurman a répondu « yes ». Donc bon.
Ah, on est bien avec un Vision Pro. Hein. Dans certains environnements, c'est vrai, qu'on pourrait se croire dans une chaise longue au bord d'une plage. Donc ça peut arriver. Bon, on passe au deuxième sujet de la semaine. Et ce sujet, il est directement lié à ma présence ici à Las Vegas. Alors, je suis venu ici pour un événement annuel organisé par Adobe, donc l'éditeur de Photoshop, Premiere, After Effects, etc. Mais qui a aussi deux autres activités très importantes pour le business. D'abord, il y a une activité liée au cloud et aux documents dans le cloud et au PDF. Et puis le troisième volet, c'est le marketing digital, l'expérience utilisateur sur les sites web, sur les applications mobiles. Et c'est vrai qu'ils sont devenus les numéro un dans le monde avec une solution qui a la force d'être une solution complète qui part de la création jusqu'à tous les outils marketing pour cibler les clients en fonction de ce qu'on veut leur proposer. Et donc on a eu deux grosses keynotes mardi matin et mercredi matin. Vous imaginez dans l'un des très très grands halls ici au Venetian, donc qui est un des hôtels sur le Strip, hein, le grand boulevard de Las Vegas. Immense hall, 11 000 personnes assises avec 5 écrans géants en enfilade et une scène au milieu. Et donc 2 heures de keynote avec mardi les grosses annonces vraiment sur les nouveautés donc de cet univers. Alors j'avais un peu peur, pas de m'ennuyer, mais d'être dans un sujet qui me parle moins que lors d'Adobe Max, l'autre événement qui lui a lieu en octobre, qui est dédié lui à la créativité et au logiciel qu'on utilise pour beaucoup. Là, c'est vraiment un rendez-vous pour les marketeurs. Donc, moi, je suis pas un homme de marketing, mais c'était quand même hyper intéressant parce que tous ces outils finalement se parlent en coulisses et donc il était complètement logique d'avoir de nouvelles annonces ici autour de Firefly, donc l'IA générative d'Adobe, IA générative d'image dans un premier temps. C'est ici d'ailleurs qu'elle a été annoncée il y a un an pile. Donc tout ça est très récent, hein. Ça ne fait qu'un an que ça a démarré pour Adobe. On sait le succès qu'ils ont depuis avec ce moteur qu'ils ont intégré à pas mal de leurs logiciels, dont Photoshop. Firefly est arrivé dans Acrobat, donc fonctionne aussi, par exemple, pour résumer un PDF il y a quelques jours. Et donc les annonces qui ont eu lieu ici autour de Firefly, elles concernent le monde du marketing, les entreprises, les marques, et en quoi elles consistent. Eh bien, il y a une annonce principale, c'est l'arrivée de ce que Adobe appelle Firefly Services, c'est-à-dire que les marques vont pouvoir, d'une certaine manière, personnaliser le moteur de Firefly avec leur propre design, leur propre charte, leur propre propriété intellectuelle. Si on prend l'exemple d'une marque de luxe, par exemple, qui utilise Firefly pour générer peut-être de nouveaux modèles ou de nouveaux styles, en partant de la base générale de Firefly, ça donne souvent des résultats qui ne correspondent pas à ce que la marque veut réellement. Donc il va falloir tâtonner beaucoup, faire beaucoup de prompts pour demander à Firefly d'être plus précis, de partir dans telle ou telle direction pour se rapprocher de l'identité de la marque. Là, l'idée, en mettant dans Firefly, imaginons, je sais pas, le Chanel ou Louis Vuitton qui met dans son espace tous ses modèles de sacs créés depuis 50 ans et qui demande à Firefly d'en générer des nouveaux, ben, vous imaginez que le résultat va être beaucoup plus cohérent pour une marque, puisque on va retrouver des détails qui sont propres à cet univers. Donc un point hyper hyper important pour les entreprises. D'ailleurs, l'un des intervenants d'Adobe sur scène à un moment l'a dit, voilà, la récré est terminée, quoi. Firefly quasiment offert au public pour faire mumuse avec, c'est bien. Mais ils sont là pour gagner de l'argent et pour faire du business avec Firefly. Et donc l'idée, c'est vraiment que les entreprises s'en emparent et puissent plus s'en passer d'une certaine manière. Donc l'approche est assez intéressante. Et puis il y a un autre aspect, une autre annonce qui a été faite ici, c'est en fait l'intégration de Firefly dans un process marketing beaucoup plus complet et beaucoup plus généralisé, qui va permettre dans plein de situations en fait de générer à la volée des images qui vont être propres à chaque internaute, chaque client. L'exemple des sacs, par exemple, si vous acceptez avec des marques en lesquelles vous avez confiance de partager vos données, c'est la condition hein, pour que ça puisse marcher, sinon ça ne marche pas. Hein, un petit message pour Gilles. Donc il faut accepter de partager ces données une marque. Voilà. Mais si vous le faites, et donc si la marque, à force de faire des recherches, d'avoir peut-être acheté un ou deux produits chez eux, etc., c'est déjà un petit peu ce que vous aimez, quand vous allez revenir et que vous allez faire une demande, elle va vous proposer une réponse très proche de ce que vous recherchez. Ils ont même dit que ça allait presque donner l'impression d'anticiper les besoins ou les envies des clients. Et c'est pas seulement du texte, mais du coup l'image que le site ou l'appli va vous envoyer, le temps de la génération de l'image qui va se faire en quelques instants, ce sera une image qui sera façonnée sur mesure, créée à la volée par Firefly sur mesure pour vous en fonction de la data que Adobe lit à Firefly. Et donc si vous aimez les sacs avec une bandoulière en acier plutôt rose pâle et entre 3 et 400 euros, je dis n'importe quoi, hein, je dis absolument n'importe quoi, c'est cette image là qu'on va vous envoyer, même si le sac n'existe pas ou pas encore. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que quelque part, ce sera plus efficace. On devra moins chercher, on sera moins perdu, et on devra moins galérer pour trouver le produit qui nous correspond. Et puis, si on est très optimiste, à terme, ce sera peut-être la fin du marketing de masse, c'est-à-dire de ces campagnes qui arrosent nos boîtes mail de messages dont on n'a absolument rien à faire. Mais encore une fois, ça suppose, Gilles, de partager ces données. Si on ne les partage pas, bah, on continuera d'être arrosé. Et donc voilà, quelque part, c'est un chapitre ou une étape non négligeable, sachant que donc en un an, 6,5 milliards d'images déjà générées par Firefly. Donc On était à 3 milliards en octobre, donc effectivement, on est sur un rythme de 500 millions d'images par mois, quoi, à peu près. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette évolution de l'IA générative vers le monde de l'entreprise, des marques, du luxe Mais ça marche aussi pour l'automobile, pour l'hôtellerie, pour...
Oui, oui, mais il me semble que la démarche est très classique, en fait. C'est-à-dire que c'est déjà le cas depuis des années avec le moteur de recherche Google. C'est-à-dire que tu n'obtiens pas les mêmes résultats si tu fais une recherche sur Google en étant connecté à ton compte Google ou pas. Parce qu'au fur et à mesure du temps que tu donnes à Google un historique de recherche, et Google va aussi se nourrir, par exemple, des vidéos YouTube que tu regardes, et donc les résultats de recherche seront personnalisés si tu es connecté à ton compte. C'est un peu la même démarche.
Oui, mais la grosse différence, c'est que c'est vrai, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que en fonction des données de chacun, Google va vous envoyer plutôt l'image A, B ou C. On est d'accord ?
Je parle pas d'image, hein, je parlais des résultats de recherche.
Ah oui, d'accord. Mais comme Firefly, c'est de l'image. Là, l'idée, c'est vraiment.
C'est pour ça que je parle de la démarche d'utiliser les données de l'utilisateur.
Ah oui, la démarche, la démarche.
Et du coup, ça s'applique à l'image parce que Firefly, c'est d'abord de la génération d'images. Mais sinon, c'est la même démarche. C'est-à-dire, on essaie de personnaliser avec les données des utilisateurs. Ça, c'est effectivement vrai. Quant à. Le fait que peut-être le marketing de masse disparaîtrait, alors j'y crois pas du tout, parce qu'en fait ça fait des années qu'on nous dit que ce serait possible justement et qu'on essaye de nous faire croire que c'est ça qui va se passer et donc donner vos données pour que vous ayez justement de la publicité personnalisée par exemple. Et ça ne fonctionne jamais, c'est-à-dire que depuis 15 ans qu'on nous dit que ça, on a toujours, malgré tout, on fait une recherche sur une chemise bleue dans Amazon et après on a des pubs pour des chemises bleues pendant 3 semaines parce que même si on l'a déjà acheté, tu vois. Donc en fait, ça ne marche pas parce que et une des réponses possibles, c'est qu'on n'a pas donné suffisamment de données pour que les annonceurs soient au courant qu'on a déjà acheté la chemise bleue. C'est possible. Mais au final, la promesse n'est jamais tenue. Et donc, je ne crois pas une seconde que ce soit résolu avec la démarche d'Adobe, en tout cas pas dans un temps en cours.
Oui, je suis d'accord avec toi sur le délai. Ça va prendre du temps, mais j'avoue que moi qui systématiquement refuse les cookies sur un site, systématiquement, je n'accepte jamais. Après en avoir discuté ici avec plusieurs contacts que j'ai chez Adobe, j'avoue que j'ai commencé un tout petit peu à voir les choses autrement parce que ce que me disait l'un d'eux, c'est effectivement dans la plupart des cas je refuse quand j'arrive sur un site, mais il y a quelques marques et quelques sites dans lesquels j'ai vraiment confiance et à propos desquels je me dis que j'ai intérêt à ce que ma banque par exemple sache que j'ai déjà souscrit une assurance habitation parce que sinon pendant ad vitam je vais me reprendre du mailing pour me vendre de l'assurance mon interlocuteur me disait ça par exemple, moi il n'y a rien qui me fatigue plus que ça, donc j'accepte, ma banque a les infos. Et donc, s'ils font bien leur boulot, évidemment. Après, il faut que ça suive.
Ça ne change rien. Puisque les leviers au changement d'opérateur téléphonique, bancaire, assurantiel ont été levés, tu peux les quitter maintenant comme tu veux. Et à la limite, tu vas les exciter en les incitant à se proposer d'autres des offres soi-disant plus alléchantes. Bon, si tu es un bon client, ils vont te soigner, mais en général c'est pas le cas dans l'assurance où de toute façon ils sont là pour gagner de l'argent, et donc ce que tu ne paies pas en prime tu le perds en garantie, donc voilà, c'est l'exemple que tu prends, mais il y en a plein d'autres.
Non,
le
mais
problème,
je suis d'accord,
c'est pas faire confiance à quelques marques, c'est être sûr que les données que tu partages volontairement ne vont pas être partagées par ces mêmes opérateurs avec des data brokers volontairement ou involontairement parce que leur bases de données vont être craquées, comme c'est le cas de plus en plus régulièrement, et vont être vendues à l'encan sur le dark web. C'est ça le souci qu'il y a. Moi, ouais, ça me terrifie.
Je suis d'accord, mais tu sais, ça fait longtemps que je vois passer des écrans qui me proposent soit des pubs personnalisées, soit des pubs non personnalisées. Et moi, j'ai toujours cliqué sur pubs non personnalisées, mais en fait, je reçois toujours des pubs et qui ne me concernent pas du tout. Donc, quelque part, est-ce qu'il vaut mieux pas cliquer sur des pubs personnalisées ?
Alors, c'est vrai si ça marchait, sauf que l'expérience pour l'instant montre que tu cliques sur personnalisé et ça ne marche pas non plus.
Oui, mais parce que à l'autre bout, il y a des bourrins.
Mais non, c'est une escroquerie
qui font pas leur.
Non, ouais, je suis d'accord avec Gilles, c'est une escroquerie parce que ça peut pas marcher à cause justement du fait que les gens qui tu confies des données ne peuvent jamais se retenir et ils les vendent. Et donc du coup, tu as un intérêt pour les vélos, c'est super. Sauf que ça va être vendu pour un autre broker, comme dit Gilles, qui va arroser d'autres gens, et les autres gens vont aussi t'arroser avec des cravates. Et en fait, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. En fait, j'y crois pas du tout.
Et puis c'est une escroquerie au bout de la chaîne, parce que on te vend de la pub personnalisée qui ne l'est pas, comme dit très bien Fabrice, mais on vend aussi à l'autre bout des données pertinentes, je ne sais plus quel est le terme exact, et qui ne le sont pas, exactement pour les mêmes raisons. Et ces gens-là vendent du vent et vivent grassement sur un produit qui n'est pas correct, qui n'est pas qui n'est pas c'est pas un vrai produit, ils vendent du vent, c'est l'élixir du docteur Doolittle dans Lucky Luke. C'est un truc qui est censé faire papa maman et qui ne remplit pas la promesse, comme on dit, depuis quelques années. C'est là-dessus que la commission devrait taper et taper fort, à mon sens.
Ouais. Alors, je vous parle de ces sujets et je comprends vos réticences et je les partage. Hein. Je suis pas naïf du tout non plus. Mais il y a peut-être un chemin, en tout cas, pour améliorer un petit peu les choses. Évidemment, uniquement avec des marques qui respectent non seulement les législations, mais qui respectent aussi les clients, etc. Tu veux rajouter un truc, Gilles? Ouais.
C'est le meilleur des mondes, ce monde-là où c'est pas le parti communiste chinois qui sait exactement tout ce que tu fais, ce que tu penses, et avant même que ça te soit passé par l'esprit, c'est un tel ou tel vendeur de n'importe quoi, d'assurance, de voiture ou de cravate, et c'est terrifiant. Où est la liberté? La liberté de changer, le libre arbitre, c'est un truc terrifiant à base d'intelligence artificielle. C'est là où est le danger.
Ouais. Moi, le truc terrifiant, Gilles, franchement, et je pense qu'on a tous fait cette expérience-là, je te passe la main après, Ali, et j'en parlais aussi ici parce que c'est quand même, pour moi, c'est le truc le plus dangereux et le plus flippant. C'est, on a tous eu cette expérience où on a une conversation avec quelqu'un. Je sais pas, j'avais pris l'exemple d'une machine à glaçons. Je parlais d'une machine à glaçons avec un ami. Et puis, une heure après, j'ouvre mon téléphone et j'ai une pub de machine à glaçons, quoi. Et ça peut pas être une coïncidence.
Si, ça a été montré plusieurs fois. C'est pas un truc, c'est pas un micro qui t'écoute. Ça n'est absolument
pas possible, je t'assure.
Écoute, je suis désolé, mais là, c'est pas possible. Ça a été testé, en fait. Ça a été testé. C'est-à-dire que, par exemple, un premier truc à savoir, c'est que tu ne peux jamais savoir si la personne ou les personnes avec qui tu as parlé du sujet n'ont pas elles-mêmes fait une recherche sur le domaine. Et donc ensuite, il y a des échanges de données justement entre la personne avec qui tu as parlé et toi. Et par exemple, elle t'a envoyé un mail et donc c'est su, etc. Et donc ça te suit comme ça. Ça ne te suit pas par le micro. Ça, c'est pas possible. Ça a été montré plusieurs fois.
Honnêtement, je n'en suis pas sûr du tout, mais je me demande si si des boîtes, des apps réussissent pas à contourner la, les protections de l'iPhone notamment. Enfin, je sais pas. Je suis pas. Je suis pas parano. Hein. Je suis pas. Mais ça m'est arrivé. Et franchement, je crois pas du tout. Je crois tout pas que ça puisse passer comme mais par le canal que tu décris.
Ce que je dis en fait, le truc, c'est que ce que je raconte, c'est pas moins flippant. C'est-à-dire que
oui.
Ça veut dire que les annonceurs sont capables de savoir ce que tu penses avant que tu le penses.
Oui, oui,
c'est exactement ce que fait Amazon avec la gestion de ses stocks, où il y a des produits que tu vas peut-être acheter qui bougent et qui se rapprochent de toi avant que tu fasses la commande. Parce qu'en fonction de ton historique, etc., etc., ils font déjà pour être sûr que ce soit livré le plus vite possible.
Ouais. Alors, il y a eu un exemple sympa ici, deux exemples sympas quand même ici, parce qu'on a eu la keynote de mardi qui était vraiment sur les annonces côté Adobe. Et puis, mercredi matin, on avait une keynote plus inspirationnelle, on va dire, avec quatre invités sur scène qui, à tour de rôle, sont venus raconter leur métier et comment ils intègrent les technos dans leur boulot quotidien. Et on a eu deux speakers dont je voudrais vous dire un mot. D'abord, on a eu le CEO de Delta Airlines. Alors, Delta, qui est connu comme étant quand même la compagnie aérienne la plus chère aux États-Unis, nettement plus chère que Southwest, par exemple, etc. Mais il a fait un bon boulot, Ed Bastian. Il est venu expliquer ce que Delta propose comme service en plus pour les clients. Alors, ils sont en train de mettre le Wi-Fi gratuit dans tous les avions. C'est déjà le cas aux US et ils sont en train de l'étendre à l'international. Donc c'est pas mal parce que ça veut dire que les gens qui prennent l'avion vont pouvoir être connectés même en l'air, et donc c'est quand même un service intéressant. Il y en a d'autres qui sont très contents d'être déconnectés quand ils sont en avion, mais pour ceux qui ont besoin de l'aide, c'est quand même pas mal. Et ils poussent la personnalisation, par exemple. Alors ils donnent un exemple tout bête, mais et ça peut sembler un peu ridicule ou un peu girly, quoi. C'est ils vous souhaitent votre anniversaire à la porte de l'avion. C'est con, mais c'est sympa.
Bah, est-ce que c'est vraiment sympa? Tu sais, ça me fait penser à la pub. Les plus anciens d'entre nous vont se rappeler d'une pub où disait d'un seul coup, il vous offre des fleurs. C'est
oui.
Super flippant.
Oui.
Tu vois, parce que pourquoi un inconnu va me souhaiter
un inconnu, c'est ça.
Je ne veux pas.
Mais c'est l'effet magique d'impulse.
Ouais, c'est ça.
Oui,
exactement.
Mais ça dépend,
tu vois,
si
ça
on t'offre un petit gâteau, il y a une coupe de champagne dans l'avion. Ça, c'est pas mal.
Ouais.
Non, mais c'est à ça que je pense.
Je sais pas.
Au-delà du bon anniversaire, il y a aussi un accueil un peu différent. Il se passe quelque chose, quoi. Voilà.
Oui, c'est l'effet Verters original, mais si Delta, c'est ton. tu es toi aussi quelqu'un d'exceptionnel. Mais, est-ce que Delta, qui connaît ta date de naissance, va pas la partager avec je ne sais qui alors ton assurance maladie le sait, mais concernant ton style de vie, tes choix, est-ce que t'as pris une bonne grosse grillade ou du poisson à bord, et combien de fois tu t'es fait resservir du champagne ou du
non, mais c'est ça aussi.
Et oui, mais ton assurance santé va te dire, monsieur, enfin aux États-Unis, hein, monsieur, monsieur Vincent, vous avez un style de vie et des comportements qui sont à risque.
Non.
On vous augmente vos prix, mais non, c'est exactement ça.
Non, mais l'exemple du repas est très bon parce que, effectivement, par exemple, pour la commande des plateaux repas pour un vol, ils seront peut-être capables de dire, bah, pour le vol de 17h, il faut 70% de poisson parce que les clients qui sont dans l'avion, généralement, à 70%, ils vont demander le poisson. Voilà.
Ah, mais c'est important. Mais ça, c'est un sujet évidemment intéressant parce que c'est vrai. Pour éviter le gâchis, il faut avoir des statistiques de ce genre-là. Ils le font déjà. Quand
je pense qu'ils les ont depuis longtemps.
International, ils te demandent ce que tu préfères.
Alors non.
Souvent.
Mais c'est là où le Wi-Fi gratuit est très malin. C'est qu'il est, gratuit, mais il y a quand même une condition, c'est qu'il faut être membre du programme de fidélité SkyMiles. Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer un compte qui est gratuit. Mais forcément,
ça n'existe pas le gratuit. Mais ça n'est jamais gratuit.
Bien sûr, bien sûr. Mais il le reconnaît d'ailleurs, hein, parce que le patron de Delta a dit, voilà, en un an, ils ont gagné 2 millions de membres sur le programme SkyMiles. Et il dit, c'est des clients qu'on avait déjà, mais sur lesquels on ne savait rien. Voilà. Grâce au Wi-Fi gratuit. Mais il commence à avoir des infos et donc à pouvoir adapter. C'est quand même 500 000 passagers par jour, hein, Delta, ça m'a impressionné. Il y avait un autre exemple de speaker ici à Las Vegas, c'était le directeur marketing de la ligue de baseball, Major League Baseball, comme ils disent ici, c'est l'équivalent du championnat de France de football, enfin pour le baseball quoi, c'est il y a la NBA pour le basket, la NHL, la NFL et Major League Baseball. Alors je sais pas si vous saviez que le baseball c'est le sport numéro 1 aux US, moi j'avais pas du tout cette notion là. C'est trois fois plus de spectateurs que la NBA. Ils ont 100 millions de fans dans leur base. Et ils poussent très très loin le marketing digital. Ils sont passés à des billets donc dématérialisés. Et ça veut dire que quand les gens arrivent dans un stade, ils scannent leur QR code et à la seconde où ils arrivent dans l'enceinte, ils reçoivent les notifications qui leur disent ce qu'il y a au menu dans les restos, qui leur proposent s'il y a des places mieux placées. De payer un supplément pour être plus près du terrain. Voilà. C'est assez, assez impressionnant. Ils ont démarré le streaming vidéo super tôt. Je crois que c'était en 2009, donc 2 ans après l'iPhone. Et je ne sais pas si tu le sais, Ellie, mais c'est la techno vidéo de la donc MLB, donc Major League Baseball, qui a été vendue à Disney et qui sert de base à Disney+. Voilà.
Non, je savais pas.
Petit détail.
Ouais, absolument.
Bon, voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc de retour bientôt de ce Adobe Summit. En tout cas, Adobe va bien, hein. Pas de soucis à se faire pour eux. Ils ont des clients dans le monde créatif, ils ont des clients dans le monde de l'entreprise. Et leur stratégie globale, elle est quand même assez, assez efficace. Voilà, ils n'ont pas trop de concurrents qui soient capables de proposer tout l'éventail des produits dont les boîtes ont besoin. Assez efficace.
Ils ont aussi un énorme marché sur tout ce qui est signature électronique et documents électroniques avec Acrobat et de multiples variantes et autour.
Oui.
Et c'est un marché qui est énorme.
Je le disais tout à l'heure, hein, c'est les documents dans le cloud, c'est tout ça, PDF et tout. Ouais, absolument.
Ils n'ont pas de concurrents, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour ne pas en avoir, dans la mesure où ils ont racheté Fireworks et puis l'équivalent de...
Ah mais Gilles, ça fait 15 ans.
Logiciel qui était,
Gilles, ça
oui,
fait 15 ans.
Il n'y a pas eu...
Nous sors pas Macromedia, s'il te plaît. Flash, c'est fini, enfin. Macromedia,
oui. Et ils l'ont tiré jusqu'à la corde, et c'est la raison, c'est la base de la pratique anticoncurrentielle, dans la mesure où quand tu as un concurrent qui est potentiellement dangereux, tu le rachètes et tu l'étouffes et tu restes seul sur ton marché. Ça, c'est quelque chose sur lequel aurait pu se pencher la commission. C'est pas la pratique d'Apple, ça.
Et on passe au troisième sujet de la semaine. En Europe comme aux États-Unis, Apple est dans le viseur des autorités, hein, si on peut dire, avec du côté US le ministère de la Justice et du côté européen, eh bien, les autorités de Bruxelles dans le cadre du DMA. Apple n'est pas la seule entreprise visée par une enquête en Europe, mais en tout cas des deux côtés de l'Atlantique, Fabrice, il y a une sorte de concomitance qui fait qu'Apple donne l'impression d'être sous le feu là.
Oui, alors bah, la plus grosse nouvelle, c'est que c'est le ministère de la Justice américain qui a lancé une plainte pour monopole illégal. Donc là, directement contre Apple, dans le cadre de la loi Sherman, du Sherman Act. C'est assez rigolo parce que c'est vraiment une des grosses différences entre l'Europe et les États-Unis dans ce domaine, c'est que la loi sur antitrust, c'est une loi de 1890, le Sherman Act, qui avait été créé surtout pour les chemins de fer à l'époque et les compagnies pétrolières. Et qui a mené donc cette loi c'est sous l'égide de cette loi que certaines entreprises ont été coupées en petits bouts. Standard Oil, qu'on connaît chez nous sous le nom de SO, donc SO, ouais. Et puis AT&T, donc la boîte de télécom qui dans les années 80 a été coupée en un nombre de petits bouts complètement fou, c'est-à-dire plus ou moins par état. Enfin, c'était un gros conglomérat qui a été vraiment découpé en petits bouts. Et puis c'est ce qui pendait au nez à Microsoft à la fin des années 1990.
Ouais.
Parce que pareil, donc le ministère de la Justice américain avait attaqué Microsoft pour monopole illégal. À l'époque, ça dure toujours des années. Hein, donc déjà rassurons-nous. En tout cas, essayez pas de retenir votre souffle. Ça va là aussi durer des années. Mais à l'époque de Microsoft, on se rappelle, certains se rappellent que sur les PC il y avait Windows et puis il y avait rien d'autre, quoi. Et donc la position dominante de Microsoft était absolument indéniable. Ouais. Pour ce qui est d'Apple aujourd'hui, la question se pose, quoi, parce que dans la définition américaine,
on le reproche quoi d'avoir eu du succès avec l'iPhone.
Alors c'est ça qui est très très bizarre. C'est-à-dire que rappelons juste quand même dans la justice, pour la justice américaine, le monopole n'est pas illégal. On peut être tout seul à condition que on n'en profite pas pour assujettir les utilisateurs à des obligations trop fortes, à faire monter les prix parce que sous prétexte qu'on est tout seul, etc., etc. Et donc, est-ce qu'il y a abus de position monopolistique? C'est toute la question. Et en plus, il faut la première question qui se pose dans ces cas-là. La première question qui se pose dans ce cas-là, c'est justement la définition d'un marché. Est-ce que alors il faut faire attention, c'est-à-dire que monopole dans le cadre américain, ça ne veut pas dire être tout seul. Ouais. Ça veut dire avoir une position suffisamment forte pour faire sa loi, même s'il y a quelques concurrents qui seraient tellement plus faibles que finalement c'est celui qui est en position dominante ou ultra dominante, si c'est prouvé comme ça, qui peut faire sa loi. Et donc la première démarche une démarche comme ça de antitrust américaine, c'est de définir un marché. C'est ce que fait le document publié par le DOJ, donc le Department of Justice, le ministère de la Justice américain, qui essaie de définir un marché des smartphones performants. C'est-à-dire, c'est pour éviter a priori d'utiliser le mot haut de gamme, c'est assez bizarre, quoi, parce que en gros, aux États-Unis, alors on est bien d'accord, hein, ça concerne le marché américain. Ouais. Pas le reste du monde. Et aux États-Unis, en gros, l'iPhone aurait entre 50 et 60% de part de marché. Et si on considère le marché des smartphones performants tel qu'il est défini par le ministère de la Justice, l'iPhone aurait plus de 70% de part de marché, enfin au moins 70%. Ça leur donne une marge déjà pour s'appuyer dessus pour dire voilà, il y a une position potentiellement dominante et on va essayer de prouver, en tout cas c'est leur exposé des faits dans certains domaines qu'ils ont choisis, que on va essayer de prouver que Apple abuse de sa position dominante et tellement dominante qu'ils font la loi sur le marché.
Ouais, bon, Gilles, je vais te passer la main dans un instant, mais Élie, je te voyais te prendre la tête entre les mains pendant que Fabrice nous faisait cette rapide introduction sur le sujet.
Oui, parce que bon, toutes ces énormes procès qui effectivement vont durer des années, des fois il peut y avoir une base, mais là vraiment on comprend même pas pourquoi ils font ça. Ils ont parlé à un moment donné de la façon dont Apple utilise l'App Store. Mais bon, c'est l'App Store d'un iPhone, donc c'est normal qu'Apple l'utilise, mais ils sont loin d'être les seuls là-dedans, puisque non seulement il y a énormément de développeurs qui publient à travers l'App Store, il n'y a pas que des apps Apple, mais en plus, Apple leur donne des sommes astronomiques qu'ils publient à chaque fois, qui sont en milliards de dollars, donc ça bénéficie à l'écosystème.
Ouais, je voudrais préciser deux, trois petites choses. Le ministère de la Justice américain ne parle pas de l'App Store du tout. C'est une des choses très étonnantes. Ouais. Tout ce qui concerne l'App Store, c'est uniquement en Europe pour le moment. On verra si ça évolue, mais pour l'instant, c'est pas évoqué. Et ensuite, sur le 6 mois avant les élections, faut pas oublier que l'enquête du DOJ a commencé en 2019, donc sous la présidence de Donald Trump, et aboutit maintenant. Donc ces procès sont évidemment politiques, mais ça fait 5 ans qu'ils bossent dessus, sous 2 administrations très différentes. Donc je pense qu'il y a, matière à mettre un bémol sur les potentielles velléités du ministère en question, ouais. Même si forcément c'est forcément politique. Peut-être juste rappeler la base du procès. C'est essentiellement sur 5 exemples pris par le DOJ qui parle d'abord de, par exemple, donc de l'application Message. Donc c'est un peu les histoires de bulles bleues et de bulles vertes. On les a évoquées ici déjà, notamment parce que l'utilisation des bulles bleues, donc des messages via e-message, les services d'Apple, c'est beaucoup plus utilisé aux États-Unis qu'en Europe, où nous on utilise beaucoup WhatsApp. Mais c'est pas tellement le fait que ce soit des bulles bleues ou des bulles vertes qui est incriminé, c'est le fait que, contrairement à Android par exemple, on ne peut pas sur un iPhone choisir une autre application que celle qui s'appelle Message pour gérer les SMS. Sur un Android, on peut dire que c'est Facebook Messenger ou WhatsApp ou Signal ou celle que vous voulez qui va faire la même chose que l'application Message sur un iPhone, c'est-à-dire qui va basculer entre les SMS traditionnels et les messages de la messagerie propriétaire de manière transparente, comme fait l'application Message sur l'iPhone et qu'on aime bien, justement, c'est bien pratique. Mais c'est donc moins ouvert par définition sur l'iPhone que sur un Android. Est-ce que c'est un abus de position dominante? C'est la justice qui le dira. C'est un des aspects. L'autre chose, c'est le manque d'ouverture à la concurrence, notamment sur les puces NFC. La puce NFC de l'iPhone est totalement fermée et uniquement, en tout cas au début, était uniquement utilisable par les applis d'Apple. Et là, on parle notamment des applis bancaires, c'est-à-dire qu'on peut payer avec son iPhone via Apple Pay, mais il n'y a qu'Apple Pay qui est capable d'utiliser la puce NFC de l'iPhone pour faire des paiements aussi de manière aussi facile et automatique que qu'Apple Pay. Donc c'est une chose qui est sur le point de changer en Europe sous l'impulsion du DMA, mais de vouloir donner l'accès aux entreprises, enfin aux banques, pour utiliser le NFC aussi facilement qu'Apple. Autre chose, ça concerne, ils évoquent l'Apple Watch. C'est marrant parce que l'Apple Watch, c'est pas non plus un truc d'un très gros marché, mais en disant que, en gros, l'Apple Watch est conçu pour être un accessoire de l'iPhone, mais qui ne fonctionne qu'avec l'iPhone. Une Apple Watch et un téléphone Android, ça marche pas. Et que une montre connectée d'une autre marque peut fonctionner avec un iPhone, mais moins bien. Donc là, je te rejoins ce que tu disais, Benjamin, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'il pointe du doigt en disant il reproche à Apple de faire trop bien les choses, quoi, en gros. Voilà. C'est une façon de l'interpréter. Et puis il parlait d'autres trucs un peu, c'est un peu plus ça ésotérique. D'abord, il dans le texte, il y a donc les histoires de jeux en streaming, des applications de jeux en streaming comme le Xbox Pass, où Apple les refusait pendant un certain temps. Et puis finalement, ça a été ouvert, ça a déjà été changé, donc finalement, on peut ne pas en parler. Et puis ils évoquent les super applications, les super apps, qui sont des applications comme voudrait faire Elon Musk avec X.com, c'est-à-dire une application qui fait tout ou le plus de trucs possible, c'est-à-dire qui fait de la messagerie, des photos, des échanges bancaires, des paiements entre particuliers, des réservations de voyage, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire ce que fait WeChat par exemple en Chine. Et ça aussi, c'est assez bizarre parce que de dire que c'est pas possible sur iPhone ou que c'est trop limité, alors que justement il y a WeChat en Chine et Line notamment au Japon qui fait beaucoup de choses comme ça, bah ça a pas l'air de tenir vraiment la route. Donc c'est assez bizarre de voir ça et en plus de voir donc ce document qui fait 88 pages n'évoque pas l'App Store. Ils ont pas voulu aller dans le domaine de l'App Store comme le fait le DMA. Peut-être parce qu'il y a déjà eu le procès avec Epic Games et que du coup Epic Games a perdu et donc bah, ils n'ont pas voulu y retourner. Voilà, donc tout ça pour dire, bah, c'est est-ce que il va falloir qu'ils prouvent si le procès a lieu que Apple a utilisé de manière trop forcenée sa position dominante en étouffant le marché, et en étouffant l'innovation. C'est le principe même du Sherman Act, c'est d'essayer de prouver ça.
Voilà. Gilles, quand même, c'est toujours bizarre quand. Alors c'est peut-être notre œil d'Européen ou de Français, mais quand on lit que les États-Unis poursuivent Apple, ça fait toujours bizarre. Je sais pas.
Oui, là, Apple paye royalement 16% d'impôts. Ils le disent à chaque trimestre. Auparavant, c'était 15%. Ils l'ont fait passer à 16%. Quand la loi sur les contributions minimales à l'international des multinationales est passée à 15%, c'est également le cas de Google. Biden, pour sa réélection, a mis à son programme le faire passer à 21%. À mon sens, c'est pas encore suffisant. Et c'est ça qui permet à Apple de surfer sur la vague et continuer à être en tête et de fournir de l'innovation, de la recherche et développement, et de garder des talents. Mais c'est un faux prétexte de chaque côté de l'Atlantique pour éviter, je le répète, de s'attaquer aux vrais problèmes. Et c'est la raison pour laquelle ils se font étriller les uns et les autres régulièrement en appel, parce que ça ne tient pas debout.
Ok. Gilles, je vais repasser la main à Élie qui la voulait. Et puis je voudrais qu'on dise un mot quand même aussi des enquêtes lancées en début de semaine en Europe cette fois, Élie.
Oui, en fait, c'était juste pour dire qu'il y a quand même une différence a priori entre ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, puisque en Europe, avec le DMA, Apple a plutôt essayé de trouver un terrain d'entente. Là, bon, le procès n'est pas fini, loin de là, mais Apple a refuté point par point tout ce qu'on lui reproche. Donc il semble sur une position plus combative.
Oui.
Oui, non, mais il y a certains cas en Europe, ils n'ont pas tout refuté. Ils ont essayé de trouver.
C'est vrai.
ça revient au même, en fait. Parce que ça fonctionne de manière inverse entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, là, on prend une vieille loi et on dit vous avez fauté par rapport à la loi. Là, le DMA, c'est une nouvelle loi. Donc, à l'avenir, il va falloir que vous fassiez ça. C'est donc parfaitement opposé. Et ce que fait en termes de légal. En revanche, ce que fait Apple, donc ils ont 60 jours après la publication pour le ministère de la Justice américain pour répondre point par point véritablement avec un document officiel et pas seulement un communiqué de presse, dans lequel ils vont forcément réfuter point par point, comme t'as dit Élie, évidemment. Pour ce qui est de l'Europe, ils font la même chose, c'est-à-dire que, à mon sens, là, ça c'est une interprétation, naturellement, c'est de dire que ils disent, on a lu le DMA aussi, on va faire ça, et puis on voit bien que, petit à petit, ils font des pas supplémentaires, c'est-à-dire que ils peuvent pas réfuter, il y a rien à réfuter, ils sont pas accusés, puisque c'est sur des faits qui ne sont pas encore établis. En revanche, ils disent, bon, on va faire ça, et l'Europe dit, c'est pas assez. Et donc, ils font un peu plus. Et puis, l'Europe, visiblement, s'est passé avec le dernier truc, c'est que l'Europe a dit à Apple, à Meta et à Google, parce que ça concerne tous ces gens-là pour l'application du DMA, on va se rassembler, les enfants, parce que vos réponses au DMA ne conviennent pas, ne correspondent pas à l'esprit de la loi. On va vous réexpliquer l'esprit de la loi et ensuite, on vous redonnera 12 mois pour vous adapter.
Mais justement, la question que je voulais vous poser, parce que j'en suis pas convaincu, est-ce que la nouvelle procédure en Europe a démarré lundi, est-ce qu'elle concerne les adaptations que Apple, Alphabet, donc Google et Meta ont apporté pour se conformer au DMA. Donc est-ce que c'est un premier examen des changements, et notamment en ce qui concerne Apple, de l'ouverture de l'App Store, etc., avec la question de la taxe technique là, de 50 centimes d'euros, etc. Est-ce que c'est cet examen-là qui conduit à l'ouverture de la procédure, ou est-ce que c'est sur une base plus ancienne, avant l'entrée en vigueur du DMA ?
Non, il y a deux choses. Non, attends, il y a l'amende qui...
Fabrice.
Oui.
En gros, c'est la même chose, c'est-à-dire que le DMA implique de nouvelles règles. Que font les entreprises pour suivre les règles ? Et prenons Apple, c'est ça qu'on connaît mieux. Ils ont d'abord dit qu'ils feraient donc les App Store, donc les places de marché alternatives, et le core technology fee, les 50 centimes d'euros à payer au-delà d'un million de téléchargements. Et puis ensuite, en gros, l'Europe leur a déjà dit, là, en dehors de cet examen, dire non mais quand vous dites les places de marché, il faut aussi faire le sideloading, c'est-à-dire l'installation depuis un site web. C'était pas l'un ou l'autre, c'est les deux.
Ouais.
Donc, c'est donc 10 jours plus tard, Apple a dit bon tiens, regardez, on a changé. Il y aura aussi le sideloading avec les conditions qu'on a déjà qu'on a évoquées ici il y a
15 jours,
il y a deux numéros.
Ouais.
Et puis visiblement ça suffit pas, et donc là l'Europe a convoqué tout le monde pour faire un grand truc. Alors on peut le regarder, je l'ai pas fait hein, ça dure 9 heures. Si on veut tout regarder, en disant bon alors maintenant redonnez-nous exactement ce que vous allez faire, et puis ça suffit pas, et potentiellement par exemple sur cette histoire de core technology fee, donc les fameux 50 centimes d'euros, il est possible qu'il y ait d'autres façons de faire, d'autres que Apple change, ne l'enlève pas forcément. En fait, il y a eu j'ai entendu parler de ça, je l'ai pas vu moi-même, mais le créateur, on l'avait évoqué aussi il y a 15 jours, de l'Alt Store, un des magasins, des places de marché alternatives qui devraient arriver sur l'iPhone, qui a notamment dit de donner un exemple à Apple. Mais alors voilà, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous rendez-vous compte, un développeur tout seul, par exemple, un jeune, il a mineur, il est chez ses parents, il fait une application parce que c'est facile à faire, et puis d'un seul coup ça explose et il y a 10 millions de téléchargements. Vous mettez la famille en banqueroute avec votre truc, a-t-il raconté très respectueusement. Et donc Apple, le gars le représentant d'Apple sur le à ce moment-là, a dit oui c'est vrai, on considère stay tuned, c'est-à-dire rester à l'écoute. On va faire quelque chose pour notamment pour adresser ça. Donc il va y avoir des choses. Donc on est toujours dans le cadre du DMA, de la réponse, des réponses au DMA et des adaptations qui vont être petit à petit demandées par l'Europe. Et donc on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire que Apple comme les autres ont leur interprétation de la loi, font en gros, allez c'est mon interprétation, je veux bien, mais le minimum. Et l'Europe dit, faut faire un peu plus. Bon, il faut encore un pas. Allez encore un peu plus parce que c'est pas ça qu'on vous a demandé. Et attention, si vous faites pas exactement ce qu'on vous demande, ça va vous coûter 10%, voire si vous récidivez, ouais, 20% de vos revenus mondiaux. Donc
10 ou 20% sur un marché qui pèse que 7% de leurs revenus, ce qu'on a appris au dernier résultat trimestriel quand même.
Voilà. Exactement. Donc il y a la carotte et puis après un gros gourdin l'image d'un gros gourdin s'ils font pas ce qu'il faut pour.
Ouais, alors les deux autres géants concernés par ces enquêtes donc en Europe, ce sont Alphabet et Meta, donc Google pour avoir favorisé certains de ses services dans les résultats de recherche. Et Meta, alors c'est intéressant parce que Meta ça concerne cette fenêtre qui était apparu il y a quelques semaines quand on lançait Facebook ou Instagram, et qui en fait ne pouvait disparaître que si on choisissait entre deux options qui étaient payer, donc souscrire un abonnement relativement cher de mémoire, ou alors donner toutes ces données à Meta. Et si on ne faisait pas un choix entre l'un et l'autre, on ne pouvait plus utiliser ni Instagram ni Facebook. C'est ça qui est concerné, hein, Fabrice.
Ouais, complètement. Et en plus pour Meta, avec une notion de prix, de tarif élevé. C'est-à-dire que pouvoir proposer un service payant plutôt que d'avoir des pubs ou de vendre ses, enfin, de donner ses données, c'est pas interdit en soi, mais en plus, donc là, il fallait absolument choisir, avec sûrement des difficultés pour revenir en arrière, mais avec un abonnement, c'était 15 ou même 20 euros ouais. par mois. Enfin, c'était très, très cher. Donc, totalement dissuasif, avec des gens qui disent s'il faut payer aussi cher, la liberté de choix n'existe pas. C'est aussi c'est une ça. Interprétation légale qu'on peut faire sur le sujet.
Un dernier mot, Gilles ?
Fabrice a bien résumé le truc, mais on voit les modèles économiques différents. Celui de Meta est entièrement basé sur les données personnelles, à tel point qu'ils sont obligés de mettre en place des dark patterns pour obliger les gens à donner ce qu'ils n'ont pas envie de donner, c'est-à-dire leurs données comportementales et leurs données personnelles. Là, Apple vend des choses, il ne tord pas le bras aux gens pour qu'ils acceptent de baisser leurs pantalons avant de rentrer sur leur écosystème. C'est la différence, c'est là où il y a une contradiction avec la directive sur les données personnelles et où, à mon avis, la commission se tire une balle dans le pied. L'application des deux directives est contradictoire et elle se fait sur le dos des utilisateurs, pas les consommateurs. Tout ça parce que également Epic Games et Spotify sont venus chouiner dans les jupes de la commission en disant « Oh là là, vous voyez, ils essaient de tourner les règles, c'est la mort du petit cheval. »
Ok, je vous propose qu'on termine avec nos coups de cœur quand même, si vous en avez peut-être, ou un carton. Je te vois sourire, Fabrice.
Ouais, parce que du coup, j'ai un coup de cœur qui m'est venu pendant qu'on parlait de marketing et de partage de données, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Alors, je voulais signaler l'existence d'une boîte qui s'appelle Consent Place, C-O-N-S-E-N-T, plus loin, Place, qui est, comme son nom ne l'indique pas, une boîte française, en fait, créée par Freddy Mini, notamment, ça va rappeler des souvenirs à certains. Vous irez chercher sur Wikipédia qui sait. Mais parce que le principe est le suivant, c'est justement essayer de retourner ce principe de consentement donc à la publicité en disant peut-être que justement plutôt que de donner nos données tout le temps sans retour finalement, y compris, bon je rajoute pour la blague, sans même de retour efficace sur les publicités qu'on reçoit, il propose cette boîte de tu t'inscris. Tu donnes justement quelques centres d'intérêt, tu donnes ton numéro de téléphone, ton adresse email, etc. Et tu consens à être contacté par des boîtes. Et quand tu es contacté, tu es payé. Tu peux être payé quelques euros, jusqu'à 15 euros, je crois, etc. Et donc, mais les boîtes qui font ça, donc consentent elles aussi justement donc à pour avoir accès à la base de données. Créé par Consent Place, ben, ils payent Consent Place et en plus ils payent les personnes qu'ils appellent. Et alors moi je me suis inscrit pour voir comment c'était et je trouve que j'aime beaucoup le principe. Je ne sais pas si ça va marcher, c'est assez nouveau, hein. Mais entre une entreprise qui t'appelle pour te vendre un truc, genre par exemple les appels automatiques là qu'on reçoit tous, hein, qui veulent nous vendre des salles de bain, des volets, des cuisines, etc. Machin. Et donc c'est très énervant. Et puis là, moi j'ai une boîte qui m'a appelé. C'était une sorte de concurrent d'Airbnb et qui se présente. Bah voilà, on est telle boîte, on vous appelle par l'intermédiaire de Consent Place. Est-ce que vous avez un peu de temps à me consacrer? Ben oui, j'ai du temps à vous consacrer puisque c'est moi qui ai choisi. Mmh. Et du coup, on avait une conversation, un échange intéressant et civil. Parce que on était tous les deux consentants et oui. Le premier pas était déjà fait. Je trouve la démarche vraiment intéressante et beaucoup plus intéressante que juste de dire tiens, plus je partage mes données, plus on va me donner des choses qui m'intéressent. Ce à quoi, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas du tout, mais je crois beaucoup plus à cette démarche-là. Voilà, Consent okay. Place, Consentplace, cherchez ça et puis inscrivez-vous si vous voulez. Je trouve que la démarche est intéressante.
Merci beaucoup, Fabrice. Eli, as-tu un coup de cœur ou un carton, peut-être?
Non, pas cette semaine. Non, non.
Bon, eh bien.
Je suis sage depuis un moment, là.
Eh ben oui, écoute, peut-être la semaine prochaine. Hein, faut pas.
C'est jamais.
Pas se forcer, hein. Gilles, est-ce que tu as une proposition pour nous
Oui, alors rien entre adultes consentants, donc. C'est une série sur Apple TV+, qui s'appelle Manhunt. Qui est
une série
sur la chasse à l'homme. Elle a commencé dans la foulée de la fin de Masters of the Air et elle raconte la chasse à l'homme de l'assassin de Abraham Lincoln. Qui est le président qui a conduit la guerre de sécession du côté de l'Union, qu'il a gagné et qui a été assassiné donc par un revanchard du Sud en quête de notoriété. Et il y a un point commun avec Masters of the Air et vous chercherez lequel. Et éventuellement, on pourrait mettre un petit quelque chose à gagner sur les réseaux sociaux.
Le premier okay, parce que le lien est difficile entre les deux, hein, quand même. Hein. C'est pas du tout la même époque. C'est pas... Bon, ouais. On va aller chercher. Hein.
Bon, merci Gilles. On te dira la semaine prochaine si on a trouvé le point commun. Ouais. De mon côté, moi, j'ai un coup de cœur à partager avec vous. Alors, c'est en liaison avec ce que je suis venu découvrir ici. C'est la prochaine... déclinaison de Firefly, donc l'IA générative d'Adobe, dédiée à l'audio. Et ça nous concerne parce que ils sont sur le point de lancer donc une IA générative audio qui permettra, dans un cadre qui a l'air quand même assez strict, d'obtenir, notamment pour un podcast, la version dans une autre langue de l'audio d'un invité. Typiquement, on pourra, si Marc Gurman revient dans les week, l'entendre en français la prochaine fois qu'il viendra, puisque l'IA générative d'Adobe pourra prendre le fichier de l'interview de Gurman en anglais et proposer la version française, ce qui est quand même assez dingue. Avec sa voix. Ouais, avec sa voix. Alors, ils sont en train de peaufiner la techno, qu'ils doivent annoncer très, très, très bientôt, parce que j'ai rencontré hier le grand patron de Firefly, j'ai passé une demi-heure avec lui, et il m'a dit vraiment c'est imminent, et il m'a renvoyé vers deux événements qui sont le mois prochain. D'abord, il y a le NAB, donc le salon de tout ce qui concerne la production audio-vidéo qui a lieu ici à Vegas entre le 13 et le 17 avril. Donc l'annonce pourrait avoir lieu au NAB, comme on dit. Ou alors il y a une autre fenêtre de tir, c'est Adobe Max, l'édition européenne à Londres, qui a lieu sur une journée, ce sera le 23 avril. Donc entre le 13 et le 23 avril, Adobe devrait annoncer donc, cette version audio de Firefly qui fera plein d'autres choses et qui sera théoriquement très bordée pour éviter... de fabriquer du contenu de désinformation. Enfin, ils ont très conscience de leurs responsabilités. Ils savent que c'est une année électorale majeure avec une cinquantaine d'élections dans le monde, plus de 2 milliards de gens qui vont voter, notamment aux US et pour les élections européennes. Et puis, ils sont quand même très... ils font les choses quelque part un peu à la Apple, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent... vraiment aux enjeux, ils sortent pas n'importe quoi. Donc je leur fais assez confiance là-dessus, et en termes de qualité, ça devrait être. Enfin, j'ai hâte d'essayer, quoi. Y compris pour qu'on peut-être qu'on crée une version anglaise d'iWeek. Hein. On pourrait tous se mettre à parler anglais dans une version traduite automatiquement. Enfin, pourquoi pas. Hein. Alors après, ça coûtera des crédits, et ça coûtera des crédits à la minute de traduction. Donc c'est sûr que nos quatre flux sur une heure et quart, ça va coûter peut-être un petit peu de sous. Mais en tout cas, ça va devenir une possibilité, et je trouve ça assez fascinant. Et je pense déjà à la prochaine venue de Marc Gurman, s'il nous fait l'amitié de revenir dans iWeek. Voilà, c'est vraiment la fin, cette fois, de cette iWeek, la semaine Apple 179. Merci beaucoup de votre fidélité. Je voulais envoyer une bise à Benoît Rimbaud, un ancien de Watch que j'aime beaucoup et qui m'a envoyé un message il y a quelques heures, parce que vous l'avez peut-être remarqué, Apple Podcast a tendance à bugger pas mal ces derniers temps. Il me disait que les derniers épisodes renvoyaient systématiquement à l'épisode avec l'interview de Xavier Niel, qui devait être le 171. Alors si ça vous arrive aussi, bah, je vous donne les mêmes conseils qu'à Benoît. D'abord, faites les mises à jour d'iOS, ayez la version la plus récente. Quittez Apple Podcast et relancez-le. Si ça ne règle toujours pas le problème, redémarrez votre iPhone. Et puis si ça marche toujours pas, eh bien passez à une autre appli de podcast. Fabrice, tu m'as fait découvrir Overcast il y a quelques mois. C'est ta préférée toujours ?
Oui, c'est toujours ma préférée. Et d'ailleurs, bah, je en profite pour faire un petit coucou aussi à Stéphane 1976 sur X, qui nous écoute depuis Hong Kong. Et qui, justement, qui faisait remarquer que dans l'application podcast d'Apple, même là-bas, il y avait des soucis, que depuis plusieurs semaines, il était, quel que soit l'épisode, il était toujours envoyé vers le 175. Donc, je lui ai proposé d'utiliser Overcast, effectivement, et il nous a répondu « Merci beaucoup pour le conseil, je peux enfin vous écouter, merci beaucoup pour ce podcast. » Eh bien, tu es le bienvenu, Stéphane. Voilà, c'est quand même complètement dingue. Voilà, donc j'ai préféré Overcast et de loin. J'ai réessayé l'application podcast d'Apple, je n'y arrive pas. L'inconvénient majeur d'Overcast, c'est qu'il est uniquement en anglais, donc si on n'est pas anglophone, ça peut gêner. Je trouve que l'interface est assez simple, mais sachez-le, voilà, ça n'existe pas en français, c'est un petit peu dommage. Mais c'est vraiment tellement mieux que... faites un petit effort si vous pouvez, et puis si vous avez un peu de mal, et ben envoyez-nous un message, et puis je vous promets, je vous expliquerai comment vous en sortir dans Overcast et vous serez beaucoup plus heureux.
Et puis Overcast a un autre avantage, c'est que les épisodes qu'on met en ligne arrivent quasiment immédiatement sur Overcast. Il faut parfois une heure de plus pour qu'on les voit apparaître dans Apple Podcast. Donc si vous voulez être réactif et nous écouter dès qu'on est disponible, eh bien une plateforme comme Overcast, c'est une meilleure solution objectivement qu'Apple Podcast. Voilà, merci les amis, merci Gilles Dounès.
Merci Benjamin, merci à vous pour cet épisode passionnant. J'étais content de retrouver, ravi de retrouver Élie et Fabrice à la fois. En binôme, et voilà, donc on a fait un trio et un quatuor,
et un quatuor.
J'espère intéressant avec toi, Benjamin.
Merci beaucoup, Gilles. À très vite pour un prochain iWeek. Salut, Élie.
À bientôt.
Et salut, Fabrice.
Salut, mon capitaine. Salut à toutes et tous.
Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine de retour en France. Passez une très bonne fin de semaine, un bon week-end. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté et nous soutenir. Et puis bien sûr, iWeek Express, le podcast compagnon de la semaine Apple pour être au courant des breaking news, comme on dit, dès qu'elles arrivent. Salut à tous et à très vite. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
Salut.